Catéchisme de Trente, chapitre 46e, la 7e demande de l'oraison dominicale, délivrez-nous du mal. Cette dernière demande, par laquelle le Fils de Dieu a voulu finir sa divine prière, est comme le résumé et la résultante de toutes les autres. Pour en montrer l'importance et la vertu, il l'employa lui-même à la veille de sa mort, en priant Dieu son Père pour le salut des hommes. « Je vous prie, dit-il, de les préserver du mal. » Nous avons donc ici, dans cette prière qui nous a enseignée par ses préceptes et qui l'a confirmée par ses exemples, une sorte d'abrégé qui renferme en substance la force et l'esprit de toutes les autres demandes. Lorsqu'au témoignage de saint Cyprien nous avons obtenu ce qu'elle renferme, nous n'avons plus rien à demander. Par le seul fait que nous avons imploré et obtenu la protection de Dieu contre le mal, nous sommes tranquilles et en sûreté contre tous les assauts du monde et du démon. Mais si cette demande a l'importance que nous venons de dire, le pasteur se fera un devoir de l'expliquer aux fidèles avec le plus grand soin. Paragraphe 1er. Comment on doit demander d'être délivré du mal? Dans la demande précédente, nous sollicitons la grâce d'éviter la faute. Et dans celle-ci, nous prions Dieu de nous délivrer de la peine. Il ne paraît pas nécessaire ici de rappeler aux fidèles les maux dont ils souffrent, les ennuis qui les dévorent, les calamités qui les accablent, et par suite, le besoin pressant qu'ils ont du secours d'en haut. La vie humaine est en proie à toutes les misères. Les écrivains sacrés et profanes sont d'accord sur cette triste vérité qu'ils ont développée de toute manière. Personne du reste ne peut en douter raisonnablement, qu'il le sache par sa propre expérience ou par celle des autres. Tout le monde est convaincu que Job, cet admirable modèle de patience, n'a rien exagéré. L'homme né de la femme, dit-il, ne vit que peu de temps, et ce peu de temps est rempli de beaucoup de misère. Il est comme une fleur qui sera foulée aux pieds en naissant. Il fuit comme l'ombre et jamais ne demeure dans le même état. Nous ne pouvons en effet passer aucun jour sans chagrin et sans affliction. Notre Seigneur nous en avertit, à chaque jour suffit sa peine. Au surplus, n'était-ce pas assez de nous avertir de la misère de notre condition, en nous disant que chaque jour il faut prendre notre croix et marcher à sa suite. Mais comme chacun sent par lui-même toutes les charges et tous les dangers de la vie, il ne sera pas difficile de persuader aux fidèles qu'ils doivent demander à Dieu d'être délivrés de leurs maux. Et cela est d'autant plus vrai que rien ne porte plus les hommes à la prière que le désir et l'espoir d'être à l'abri des maux qui les affligent ou qui les menacent. Nous sommes naturellement portés à recourir à Dieu à l'heure de l'épreuve et sans aucun délai. C'est pour cela sans doute qu'il est écrit « Couvrez leur visage d'ignominie, Seigneur, et ils invoqueront votre nom ». Mais si nous nous portons presque spontanément à invoquer le secours de Dieu dans les périls et dans les calamités, nous avons besoin d'être instruits par ceux à qui notre salut a été confié sur la méthode à suivre pour le faire dignement. Il n'est pas rare en effet de trouver des chrétiens qui renversent l'ordre établi par Jésus-Christ. Car en nous demandant de recourir à lui au jour de la tribulation, il nous a prescrit en même temps l'ordre à suivre pour faire cette prière. Avant donc de le prier de nous délivrer du mal, il nous oblige à lui demander que son nom soit sanctifié, que son royaume arrive. En un mot, il veut que nous fassions toutes les autres demandes qui sont comme autant de degrés pour arriver à celle-ci. Mais si l'on souffre de la tête, de la poitrine ou d'ailleurs, si l'on éprouve quelque perte dans ses biens, si les ennemis font des menaces et nous mettent en danger, si la famine, la guerre et la peste se font sentir, aussitôt on voit des chrétiens qui ne tiennent plus aucun compte des degrés intermédiaires de la prière et qui songent uniquement à solliciter la délivrance de leurs maux. Une telle conduite est contraire au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ainsi donc, pour bien prier, il faut tout rapporter à la gloire de Dieu, même lorsqu'on lui demande d'éloigner les peines, les calamités et les maux présents. Lorsque David disait à Dieu « Seigneur, ne me reprenez pas dans votre colère », il ajoutait immédiatement à cette prière une raison qui prouvait bien l'ardent désir qu'il avait de la gloire de Dieu. La mort, disait-il, ne garde pas votre souvenir. Et qui est-ce qui chantera vos louanges dans le tombeau? De même, lorsqu'il implorait la miséricorde de Dieu, il avait soin d'ajouter: J'enseignerai vos voies aux pécheurs, et les impies se convertiront à vous. Il faut engager fortement les fidèles, à l'exemple du prophète, à prier de cette manière vraiment salutaire, et bien leur montrer la différence qui existe entre la prière des infidèles et celle des chrétiens. C'est qu'en effet, les infidèles prient aussi et avec ardeur. Ils demandent à la divinité la guérison de leurs plaies et de leurs maladies. Ils la supplient de les faire sortir des maux qui les accablent ou qui les menacent. Mais en même temps, ils placent le principal espoir de leur délivrance dans les remèdes de la nature ou de l'art. Ils vont plus loin même car ils acceptent sans scrupule les remèdes du premier venu, quand même ils sauraient que ces remèdes ont été préparés avec sortilège, magie et intervention du démon. Il suffit pour les déterminer qu'ils aient le moindre espoir de recouvrer la santé. Mais la conduite des chrétiens est bien différente. Dans leurs maladies, dans leurs adversités, Dieu est leur principal refuge, et à vrai dire, leur seul soutien. Précisément parce qu'ils le reconnaissent et l'adorent comme auteur de tout bien et leur libérateur, ils n'oublient point que les remèdes n'ont de vertu curative que celle que Dieu leur a donnée, et par suite qu'ils ne sont utiles aux malades qu'autant que Dieu le veut. La médecine, en effet, vient de Dieu, qui l'a donnée lui-même aux hommes pour guérir leurs maladies. De là ces paroles de l'Ecclésiastique: Le Très-Haut a fait produire à la terre les remèdes, et l'homme prudent ne les dédaignera pas. Aussi ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ne mettent point dans ces remèdes leur principal espoir de guérison, mais ils se confient surtout en Dieu qui est le créateur même de la médecine. C'est pourquoi nos saints livres reprennent fortement ceux qui ont trop de confiance dans la science et ne demandent aucun secours à Dieu. Il y a plus, ceux qui mènent une vie conforme aux préceptes du Seigneur s'abstiennent de tous les remèdes que Dieu n'a pas destinés à cette fin. Quand même ils seraient assurés de guérir par ce moyen, ils ne laisseraient pas de les avoir en horreur comme des artifices et des enchantements du démon. Il faut donc exhorter les fidèles à mettre en Dieu toute leur confiance, en nous ordonnant de lui demander la délivrance de nos maux. Ce Père, plein de bonté, nous donne par là même l'espérance d'être exaucés. Nous trouvons dans la Sainte Écriture un grand nombre d'exemples où brille cette confiance dont nous parlons, et qui sont très propres à l'inspirer, même à ceux que ce raisonnement ne convaincrait pas. N'avons-nous pas dans la personne d'Abraham, de Jacob, de Lot, de Joseph et de David autant de précieux témoins de la bonté divine? Et le Nouveau Testament ne nous montre-t-il pas un très grand nombre de personnes qui ont échappé au plus grand danger par la vertu de la prière? Aussi bien, nous n'avons pas à les nommer ici, nous nous bornerons donc à rapporter ces paroles du prophète, bien capables de nous rassurer tous, même les plus faibles. Les justes ont crié et le Seigneur les a exaucés, et il les a délivrés de toutes leurs tribulations. Paragraphe 2. Quels sont les maux dont nous demandons ici d'être délivrés? Il nous reste à parler ici du sens et de l'étendue de cette demande. C'est le moyen de bien faire comprendre aux fidèles que nous ne demandons pas d'être absolument délivrés de tous les maux, car il y a des choses que l'on regarde habituellement comme des maux et qui néanmoins sont très utiles à ceux qui les endurent. Ainsi, cet aiguillon de la chair que ressentait si vivement saint Paul servait, avec le secours de la grâce, à affermir sa vertu dans la faiblesse. Voilà pourquoi les personnes de piété, connaissant le prix et les avantages de ces épreuves, les supportent avec une très grande joie, bien loin de demander à Dieu d'en être délivrées. Nous nous bornons donc à conjurer par la prière ces sortes de maux sans profit pour notre âme, mais nullement ceux qui peuvent nous apporter quelques fruits de salut. Le véritable sens de cette demande est donc qu'après avoir été délivrés du péché et du danger des tentations, nous soyons aussi préservés de tous les maux, tant intérieurs qu'extérieurs, de l'eau, du feu, de la foudre, que la grêle n'atteigne point nos moissons, et que nous n'ayons à souffrir ni de la disette, ni de la sédition, ni de la guerre. Nous demandons à Dieu d'éloigner de nous les maladies, la peste, les ravages, les chaînes, la prison, l'exil, les trahisons, les embûches, et en général tous les maux qui épouvantent et désolent le plus la vie humaine. Enfin, nous lui demandons d'anéantir toutes les causes d'iniquité et de crime. Mais nous ne demandons pas seulement d'être préservés de ces choses qui, de l'aveu de tout le monde, sont des maux véritables. Nous demandons aussi ce que l'on regarde généralement comme des biens, à savoir les richesses, les honneurs, la force, la vie même, que ces biens ne tournent point à notre malheur, ni à la perte de notre âme. Nous prions Dieu de ne point être frappés de mort subite, de ne point soulever contre nous sa colère, de ne point encourir les châtiments réservés aux impies, de ne point passer par le feu du purgatoire. Nous le supplions en même temps, avec toute la piété possible, de délivrer les âmes qui y sont détenues. Enfin, le sens que l'Église donne à cette demande, à la messe et dans ses litanies, c'est que nous soyons délivrés des maux passés, présents et futurs. Mais Dieu, dans sa bonté infinie, nous délivre des maux de plus d'une manière. Il éloigne les calamités qui nous menacent. C'est ainsi qu'il sauve le grand patriarche Jacob des ennemis que le meurtre des Sichimites avait soulevés contre lui. Mais Dieu, dans sa bonté infinie, nous délivre des maux de plus d'une manière. Il éloigne les calamités qui nous menacent. C'est ainsi qu'il sauve le grand patriarche Jacob des ennemis que le meurtre des Sichimites avait soulevés contre lui. Car, nous lisons, la terreur de Dieu se répandit sur toutes les villes d'alentour, et nul n'osa poursuivre les enfants de Jacob au moment de leur retraite. Tous les bienheureux qui règnent dans le ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ ont été eux-mêmes délivrés de tous les maux par la miséricorde de Dieu. Pour nous, tant que nous sommes dans notre pèlerinage, ce même Dieu ne veut pas que nous soyons exempts de toutes les misères. Il veut seulement nous préserver de quelques-unes. Au reste, les consolations qu'il accorde parfois à ceux que l'adversaire accable sont comme une véritable délivrance de tous les maux. C'est ainsi que David se consolait, en disant « Vos consolations, Seigneur, ont rempli mon âme de joie, à proportion même des cruelles douleurs que j'éprouvais. » Dieu délivre encore les hommes du mal lorsqu'il les retire sains et saufs du milieu des dangers les plus grands auxquels ils se trouvaient exposés. Comme il le fit pour les trois jeunes gens dans la fournaise et pour Daniel dans la fosse aux lions. Les lions le respectèrent comme les flammes avaient respecté les jeunes gens. Saint Basile le Grand, saint Jean Chrysostome et saint Augustin nous disent que le mal dont il est question dans cette demande serait particulièrement le démon, parce que le démon fut l'auteur des péchés et des crimes des hommes, et que Dieu se sert de lui pour punir les criminels et les impies. Car c'est Dieu qui nous envoie tous les maux que nous souffrons pour nos péchés. Y aura-t-il dans la ville un mal qui ne vienne du Seigneur ? Dit le prophète Amos. C'est moi qui suis le Seigneur, est-il dit dans Isaïe, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je produis le mal. Le démon est encore appelé le mal, parce que sans aucune agression de notre part, il nous fait une guerre sans relâche et nous poursuit d'une haine mortelle. Et bien qu'il soit incapable de nous nuire lorsque nous avons en main les armes de la foi et le bouclier de l'innocence, cependant il ne cesse de nous tenter par les maux extérieurs et de nous tourmenter par tous les moyens possibles. Voilà pourquoi nous supplions Dieu de nous délivrer du mal, ou du méchant, ou du malin. Nous disons du mal et non pas des maux, parce que les maux qui nous viennent du prochain doivent être imputés au démon. Il en est sûrement l'auteur et l'instigateur. Ainsi, loin de nous irriter contre nos frères, nous devons tourner notre colère et notre haine contre Satan lui-même, qui a poussé les hommes à commettre l'injustice envers nous. Si donc votre prochain vous a offensé en quelque manière, lorsque vous priez Dieu votre Père, demandez-lui non seulement de vous délivrer du mal, c'est-à-dire des injustices dont vous avez été victime, mais encore d'arracher votre prochain des mains du démon, qui ne cherche qu'à précipiter les hommes dans le vice. Paragraphe 3e de la patience nécessaire dans les maux. Enfin, il importe de savoir que si nos prières et nos vœux ne nous délivrent point des maux que nous souffrons, nous devons alors les supporter avec patience et aussi avec cette conviction que Dieu désire extrêmement nous les voir endurer de la sorte. Donc, pas d'indignation, pas de tristesse si Dieu ne nous exauce pas. Ne devons-nous pas tout soumettre à sa sainte volonté et à son bon plaisir? Ne devons-nous pas regarder comme utiles ou salutaires les choses que Dieu approuve et non pas celles qui nous plaisent? Que les pasteurs s'appliquent donc à bien représenter aux fidèles qu'ils doivent être prêts, tant qu'ils sont sur la terre, à supporter les incommodités et les calamités de tout genre, et non seulement sans se plaindre, mais même avec une certaine joie. Tous ceux, est-il dit dans nos saints livres, qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ, souffriront persécution. C'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît et qu'il entrât ainsi dans sa gloire? Or, il n'est pas juste que le serviteur soit au-dessus du maître. Il est même honteux, dit saint Bernard, que les membres soient délicats sous un chef couronné d'épines. Nous avons à cet égard un bel exemple dans la personne d'Uri. Pressé par David d'aller se reposer dans sa maison, il répondit « L'arche de Dieu, Israël et Juda... » Pressé par David d'aller se reposer dans sa maison, il répondit « L'arche de Dieu, Israël et Juda habitent sous des tentes, et moi j'irai dans ma maison. » Si nous savons nous présenter devant Dieu avec les pensées et les dispositions que nous venons de marquer, nous obtiendrons infailliblement ou d'être entièrement délivrés de tous les maux qui nous assiègent, comme les trois jeunes gens furent préservés du feu de la fournaise, ou du moins comme les Maccabées, de supporter l'adversité avec un courage à toute épreuve. Au milieu des mépris et des tourments, nous imiterons les saints apôtres, qui, accablés de coups de fouet, se réjouissaient vivement, parce qu'ils avaient été trouvés dignes de supporter des affronts pour Jésus-Christ. Remplis des mêmes sentiments, nous chanterons avec allégresse ce cantique de David. Les princes m'ont persécuté sans sujet, mais mon cœur n'a craint qu'à cause de votre parole. Je me réjouis de vos oracles comme celui qui a trouvé de riches dépouilles. Quatrième paragraphe, la conclusion de l'oraison dominicale, ainsi soit-il. Saint Jérôme, dans ses commentaires sur saint Matthieu, nous dit, et il ne se trompe pas, que ce mot « Amen » est comme le sceau de l'oraison dominicale. Aussi, comme nous avons prévenu les fidèles de la nécessité de se préparer à la prière avant de l'entreprendre, nous avons à leur expliquer maintenant quelle est la raison et le sens de cette conclusion. Car il n'est pas plus important de bien commencer la prière que de la bien finir. Que les fidèles sachent donc que nous retirons des fruits nombreux et excellents de l'oraison dominicale. Mais le meilleur et le plus agréable de tous, c'est l'assurance que nous obtiendrons ce que nous avons demandé. Nous avons suffisamment parlé plus haut de cette consolante vérité, mais nous devons ajouter ici que par cette dernière partie de notre prière, nous n'obtenons pas seulement que nos demandes soient exaucées, nous recueillons encore des avantages si grands et si remarquables que la parole peut à peine en donner une idée. Lorsque les hommes conversent avec Dieu par la prière, dit saint Cyprien, la majesté divine se rapproche, d'une manière incompréhensible, de celui qui prie, bien plus que de tous les autres hommes, et elle l'enrichit des dons les plus précieux. On peut comparer celui qui prie avec piété à un homme qui s'approche du feu. Le feu échauffe celui qui a froid. Il fait suer celui qui a déjà chaud. De même, ceux qui s'approchent de Dieu par la prière en deviennent plus ardents, selon la mesure de leur piété et de leur foi. Leur cœur s'enflamme pour la gloire de Dieu. Leur esprit est éclairé d'une lumière admirable, et en outre, ils sont comblés des dons célestes. La Sainte Écriture nous le dit, vous l'avez prévenu des bénédictions de votre douceur. Moïse, cet illustre personnage, en est un exemple des plus remarquables. Au sortir de ses entretiens intimes avec Dieu, son front et son visage resplendissaient d'une lumière si éclatante que les Israélites ne pouvaient pas le regarder. Tous ceux qui prient avec cette piété et avec cette sainte ardeur participent aux effets admirables de la bonté et de la majesté de Dieu. Dès le matin, dit le prophète, je me présenterai devant vous, et je verrai que vous n'êtes pas un Dieu qui aime l'iniquité. Plus nous connaissons ces merveilles, plus aussi nous sommes pénétrés d'amour et de respect pour Dieu. Plus nous goûtons combien le Seigneur est doux et combien sont heureux ceux qui espèrent en lui. À la clarté de cette lumière incomparable qui nous environne, nous commençons à comprendre le néant que nous sommes devant l'infinie grandeur et la majesté de Dieu. Nous faisons ce que demande saint Augustin. Seigneur, faites que je vous connaisse et que je me connaisse moi-même. Dès lors, nous avons de nous-mêmes et de nos propres forces une juste défiance, et nous nous confions entièrement en la bonté de Dieu, ne doutant point qu'il ne nous reçoive avec une charité toute paternelle et une admirable tendresse, et qu'il ne nous donne en abondance tout ce qui nous est nécessaire pour la vie et pour le salut. Alors nous rendons à Dieu toutes les actions de grâce dont notre cœur et notre bouche sont capables. Heureux d'imiter en cela le saint roi David, qui, après avoir commencé sa prière par ces mots, Sauvez-moi de tous ceux qui me persécutent, finit par ceux-ci, Je rendrai grâce à Dieu selon sa justice, et je chanterai à l'honneur du nom du Seigneur Très-Haut. Presque toutes les prières des saints commencent par la crainte et finissent par l'espérance et la joie. Mais les plus remarquables en ce genre sont celles du prophète David. Après avoir commencé à prier sous l'empire de la crainte et du trouble, en disant « Combien qui s'élève contre moi? Combien qui crie à mon âme? Point de salut pour toi en Dieu !» Bientôt il se rassure, et dans la joie qui l'inonde, il ajoute « Je ne craindrai pas les milliers d'ennemis qui m'environnent. » Dans un autre psaume, après avoir déploré sa misère, nous le voyons plein de confiance en Dieu. Faire éclater une joie extraordinaire dans l'espérance de la béatitude éternelle. Je m'endormirai, dit-il, et je reposerai dans la paix. Et ce cri, Seigneur, ne me reprenez point dans votre colère, ne me châtiez point dans votre fureur. Avec quelle terreur et quel effroi n'est-il pas à croire qu'il le prononça? Mais aussi quelle confiance et quelle joie dans les paroles qui suivent. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Car le Seigneur a exaucé la voix de mes pleurs. Enfin, lorsqu'il avait à redouter la colère et la fureur de Saül, avec quelle humilité n'implorait-il pas le secours de Dieu? Seigneur, disait-il, sauvez-moi par votre nom, et défendez ma cause par votre puissance. Puis, la confiance et la joie revenant, il ajoute dans le même psaume, Voilà que Dieu est mon aide, et que le Seigneur est le défenseur de ma vie. Que celui donc qui a le cœur plein de foi et d'espérance se dispose à prier, se présente devant Dieu son Père avec la confiance ferme qu'il obtiendra ce dont il a besoin. Or, ce mot Amen, qui termine l'oraison dominicale, contient en germe toutes les pensées et toutes les considérations que nous venons d'exposer. D'autre part, notre Seigneur Jésus-Christ s'en sert si souvent dans l'Évangile, qu'il a plu à l'Esprit Saint de le conserver dans l'Église de Dieu. Voici donc en quelque sorte le sens qui y est attaché. Sachez que vos prières sont exaucées. C'est comme la réponse de Dieu, renvoyant gracieusement celui qui priait en lui accordant ce qu'il demandait. Or cette interprétation a pour elle la coutume constante de l'Église. Et en effet, dans le Saint Sacrifice de la Messe, lorsqu'elle récite l'oraison dominicale, l'Église n'a pas laissé le mot « Amen » aux assistants, qui doivent simplement dire « Mais délivrez-nous du mal ». Elle l'a réservé pour le prêtre, qui étant médiateur entre Dieu et les hommes, répond au peuple que le Seigneur est apaisé. Cette règle n'est cependant point commune à toutes les prières, puisque dans les autres, c'est le peuple qui répond « Amen ». Elle ne s'applique qu'à l'oraison dominicale, et en voici la raison, c'est que dans toutes les autres prières, ce mot exprime seulement un assentiment ou un désir, tandis qu'ici il signifie que Dieu exauce les demandes de ceux qui prient. Il faut dire d'ailleurs que les interprètes traduisent diversement ce mot Amen. Les Septante lui ont donné le sens de Ainsi soit-il. D'autres ont dit vraiment. Aquila le traduit par fidèlement. Mais il importe peu que l'on entende de telle ou telle manière, pourvu que l'on reconnaisse que dans la bouche du prêtre à la messe, il exprime bien l'assurance que ce qu'on a demandé est obtenu. Saint Paul autorise ce sens en disant aux Corinthiens « Toutes promesses de Dieu ont en Jésus-Christ leur vérité. Et c'est par lui aussi que nous disons Amen à Dieu pour la gloire de notre ministère. » Ce mot est encore pour nous comme la confirmation de toutes nos demandes. Le fait seul de le prononcer rend plus attentif ceux qui s'adonnent au saint exercice de la prière, où il arrive trop souvent, hélas, que l'esprit est distrait et entraîné par toutes sortes de pensées étrangères. Enfin, dans cette courte parole, nous demandons avec une nouvelle et insistante ardeur que tout ce que nous venons de solliciter soit fait, c'est-à-dire accordé. Ou mieux, reconnaissant déjà que nous avons tout obtenu, la présence du secours divin nous pénètre de joie, et nous chantons avec le prophète « Voici que Dieu vient à mon aide et que le Seigneur est le défenseur de ma vie. » Personne en effet n'a le droit de douter que Dieu ne soit touché, tout ensemble, et du nom de son Fils, et d'une prière qu'il a si souvent proférée. Puisque ce divin Fils, comme dit saint Paul, a toujours été exaucé à cause de son respect pour son Père. Copyright jésusmarie.com le 23 janvier 2010. Fichier placé sous licence Creative Commons. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.